Chapitre 32. Scellé à la flamme. Elaïda d'Oavrini à Eroyan trônait sur la chaire d'Amerlin. Le grand fauteuil sculpté de liane est désormais peint de 6 couleurs et non de 7. Une étole à 6 rayures et non 7 sur les épaules, la dirigeante suprême balaya du regard le hall de la tour circulaire. Depuis qu'il n'y avait plus 7 à Jam et 6, les fauteuils peints des représentantes avaient été réarrangés autour de l'estrade centrale située sous le dôme. Alors que les 18 représentantes se tenaient respectueusement debout, Randaltor était agenouillé à côté du siège de la chaire d'Amerlin. Il ne dirait pas un mot avant d'en avoir reçu l'autorisation, ce qui n'arriverait pas en ce jour, car il n'était qu'un des symboles du pouvoir de Laïda. Les 12 représentantes qu'elle appréciait le plus étaient impliquées dans le lien qu'elle contrôlait en personne, afin que le prisonnier reste parfaitement inoffensif.
« Mère, »
dit Alviarin, docile comme un agneau.
« Nous avons atteint le plus grand consensus possible. »
Sur ces mots, elle s'inclina devant le sceptre surmonté par la flamme de Tarvalon. Au pied des marches de l'estrade, Shériam hurla, et le garde de la tour qui la surveillait dut intervenir pour la faire taire. La sœur rouge qui maintenait le bouclier l'isolant de la source ricana. Romanda et Lelaine parvinrent à conserver un semblant de dignité, contrairement aux autres renégates également isolés de la source et sous bonne garde, qui pleuraient tout en silence. Peut-être de soulagement, parce que 4 condamnations suprêmes seulement avaient été prononcées, ou parce qu'elle redoutait ce qui restait à suivre. Les visages des plus décomposés appartenaient aux traîtresses qui avaient osé siéger dans le hall des renégates au nom de l'Aja Bleu, désormais dissous. Toutes les sœurs rebelles avaient été chassées de leur Aja, jusqu'à ce qu'Elaïda les autorise à y être réintégrées. Mais les anciennes sœurs bleues avaient devant elles des années bien difficiles, ainsi elles apprendraient l'obéissance et la soumission, avant que la chair d'Amerlin leur permette d'entrer dans un des 6 autres Aja restants. Jusque-là, elles seraient entièrement à sa merci. Elaïda se leva, et il sembla que le pouvoir qui circulait entre le cercle des 13 n'appartenait exclusivement qu'à elle.
« Le hall est en accord avec la volonté de la chair d'Amerlin. Que Romanda soit la première à recevoir le fouet !»
Romanda eut un sursaut. Qu'elle montre donc quelle dignité elle conserverait jusqu'au moment où la calmerait.
« Qu'on amène les prisonnières, et qu'on fasse venir le premier groupe de pauvres malheureuses, qui ont été assez aveugles pour les suivre. J'accepterai avec clémence leur soumission. »
Une des prisonnières cria, et une autre échappa au garde de la tour qui la tenait par le bras. Montant quelques marches, Egwene Alvéré se jeta au pied de la chaire d'Amerlin. Les joues ruisselantes de larmes, elle tendit des mains implorantes.
« Pardonne-moi, mère. Je me repens. Et je me soumets. Par pitié, ne me fais pas calmer. »
Elle se prosterna, face contre terre.
« Pitié, mère. Je jure que je me repens.
La chaire d'Amerlin peut se montrer clémente. »
dit Elaïda, pleine de ferveur. La tour blanche devait faire un exemple avec Lelaine, Romanda et Shériam, mais cette fille pouvait être épargnée. Par Elaïda, parce qu'elle était l'incarnation de la tour blanche.
« Egwene Alvéré, tu t'es révoltée contre la chair d'Amerlin, mais j'aurai pitié de toi. Tu porteras de nouveau la robe blanche de novice, et moi seul déciderai du jour où tu pourras obtenir un statut plus élevé. En ce jour... tu vas devoir être la première à prêter un 4e serment sur le bâton des serments. Celui d'être loyal à la chair d'Amerlin et de lui obéir aveuglément. »
Les prisonnières se jetèrent à genoux, implorant de pouvoir jurer elle aussi allégeance à la dirigeante suprême. Lelaine ne fit pas exception à la règle. Même chose pour Romanda et Shériam. Egwene monta en rampant les marches qui restaient, afin de venir embrasser l'ourlet de la robe de Laïda.
« Je m'en remets à ta volonté, mère. Merci, mille fois merci. »
Alviarin saisit soudain l'épaule d'Elaïda et la secoua comme un prunier.
« Réveille-toi, espèce de triplidiote !»
Elaïda ouvrit les yeux sous la lumière de la lampe que tenait Alviarin d'une main, tandis qu'elle la secouait par l'épaule de l'autre.
« Que viens-tu de dire ?»
demanda la chair d'Amerlin, encore à moitié endormie.
« S'il te plaît, mère, réveille-toi !»
répondit Alviarin.
« Kovarla Balden est de retour du Kyrienne. »
Elaïda secoua la tête pour dissiper les derniers lambeaux de son rêve.
« Sitôt ?» Je ne les attendais pas avant une semaine. Kovarla, tu dis ? Où est Galina ?
Une question stupide, qu'Alviarin ne pouvait pas comprendre. Pourtant, elle répondit de sa voix cristalline.
Kovarla pense que Galina est morte, ou prisonnière. Les nouvelles ne sont pas bonnes, j'en ai peur.
Elaïda cessa aussitôt de penser à ce qu'Alviarin devait savoir ou non.
Raconte-moi tout !
Écartant le drap de soie, la chair d'Amerlin se leva et entreprit d'enfiler une robe de chambre sur sa chemise de nuit. Du compte-rendu d'Alviarin, elle ne capta que les grandes lignes. Une bataille, des hordes d'Aiel canalisant, la disparition d'Altor. Un désastre. Distraitement, Elaïda nota qu'Alviarine portait une robe blanche bordée de fil d'or, l'étole de la gardienne reposant sur ses épaules. Avant de communiquer des nouvelles capitales à la chair d'Amirline, cette femme avait pris le temps de se pomponner. Dans le bureau, l'horloge sonna la deuxième heure à l'instant précis où Elaïda entrait dans son salon. Les petites heures de la nuit, soit le pire moment pour recevoir de mauvaises nouvelles. Kovarla se leva du fauteuil au coussin rouge qu'elle occupait. Son visage, d'habitude implacable, ravagé par la fatigue et l'inquiétude, elle s'agenouilla pour embrasser la bague d'Elaïda. Sa robe de voyage noir était toute crottée, et ses cheveux auraient bien eu besoin d'un peigne, mais elle portait le châle qu'elle avait reçu des années plus tôt, avant la naissance d'Elaïda, probablement. Dès que les lèvres de la sœur eurent touché le grand serpent, la chair d'Amirline recula sa main.
« Pourquoi t'a-t-on envoyé ?»
demanda-t-elle. Prenant l'ouvrage qu'elle avait laissé sur un fauteuil, Elaïda s'assit et commença à tricoter. Cette activité lui apportait un peu de paix, comme quand elle caressait ses figurines d'ivoire, et elle en avait terriblement besoin en cet instant. De plus, ça l'aidait à réfléchir.
« Où est Catherine ?»
Si Galina était morte, Catherine aurait dû prendre le commandement avant Coiren. Une fois Altor capturé, Elaïda avait été claire sur ce point. L'Aja Rouge devait assumer la direction des opérations. Kovarla se leva lentement, se demandant si elle faisait bien. Serrant son châle rouge, elle se lança.
« Catherine est au nombre des disparus. »
Cessant de tricoter, Elaïda foudroya la sœur du regard.
« Combien, ma fille ? »
demanda-t-elle, d'un ton calme qui l'étonna elle-même.
« Je ne peux pas dire combien ont survécu, mère. Nous n'avons pas osé nous attarder assez longtemps pour faire des recherches, et...
« Combien ?»
cria Elaïda. Frissonnant, elle se concentra sur ses aiguilles. Crier ne servait à rien, sauf à trahir sa faiblesse. Passer la laine, tirer l'aiguille. Un peu de paix.
« Mère, je suis revenue avec 11 sœurs, »
souffla Kovarla. Elle attendit, puis, Elaïda ne disant rien, enchaîna d'un ton hésitant.
« D'autres peuvent être en chemin vers Tarvalon. Gawain a insisté pour partir, et nous n'avons pas voulu prendre le risque de rester sans lui et sa jeune garde. L'endroit grouillait d'Aiel et... »
Elaïda ne dit rien. 12 rescapés. Si d'autres sœurs s'en étaient sorties, elles seraient revenues à Tarvalon, arrivant en même temps que Kovarla. Même si une ou deux voyageaient plus lentement parce qu'elles étaient blessées. 12 survivantes. La tour n'avait pas connu un tel désastre depuis les guerres des Trollocs.
« C'est naturel, Aiel. Devons recevoir une bonne leçon, »
dit Elaïda, coupant le bavardage de Kovarla. Galina avait cru pouvoir utiliser des Aiel contre des Aiel. Quelle pauvre idiote.
« Nous libérerons les sœurs qu'elles ont capturées, et nous montrerons à ces Aiel ce qu'il en coûte de défier les Aes Sedai. Puis nous reprendrons Altor. »
Pas question de le laisser filer, même si Elaïda devait, en personne, prendre la tête de toutes les sœurs pour le traquer. La prédiction avait été limpide. Elle triompherait. Kovarla jeta un regard inquiet à Alviarine, puis elle prit son courage à deux mains.
« Mère, au sujet de ces hommes, j'ai pensé... « Tu n'as pas à penser !»
cria Elaïda. Les aiguilles s'entrechoquèrent bruyamment, et elle se pencha si vivement en avant que Kovarla leva une main, comme pour parer une attaque. Elaïda s'avisa qu'elle avait oublié la présence d'Alviarine. De toute façon, le mal était fait. Elle verrait plus tard comment réparer les dégâts.
« Tu n'as raconté ton histoire à personne, Kovarla ?» Excepté à la gardienne des chroniques. Non, mère, à personne.
Kovarla parut soulagée d'avoir fait ce qu'il fallait, pour une fois.
Je suis entrée en ville seule, et en dissimulant mon visage, jusqu'à ce que je sois en face d'Alviarine. Gawain voulait m'accompagner, mais les sentinelles, sur le pont, ont refusé le passage à tout membre de la jeune garde.
Oublie Gawain Trakand,
ordonna Elaïda. Ce jeune homme s'entêtait à vivre dans le seul but de saboter ses plans, semblait-il. Si Galina n'avait pas succombé, elle paierait pour cette erreur-là, en plus d'avoir laissé échapper Altor.
« Tu vas sortir de Tarvalon aussi discrètement que tu y es entrée, ma fille. Puis avec tes compagnes, tu te cacheras dans un village, jusqu'à ce que je te fasse appeler. Dorlan serait l'endroit rêvé. »
Dans ce hameau dépourvu d'auberges, les sœurs devraient dormir dans des granges. Un début de punition pour ce fiasco.
« Retire-toi et prie pour qu'une sœur plus haut placée que toi finisse par arriver. »
Blanche comme un linge, Kovarla esquissa une révérence maladroite et faillit s'étaler. Quel imbécile! Elaïda était entourée d'idiotes, de traîtresses et d'imbéciles. Dès que Kovarla fut sortie, la chair d'Amirline posa son ouvrage, se leva et vint se camper devant Alviarine.
Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de ça plus tôt? Si Altor s'est échappé il y a 7 jours, c'est bien ce que tu as dit. Des agents à nous ont bien dû l'apercevoir. Pourquoi n'ai-je pas été informé? Mère, je peux seulement te communiquer ce que les Aja font remonter jusqu'à moi.
Alviarine ajusta calmement son étole.
Tu veux vraiment risquer une troisième déroute, en tentant de libérer les sœurs prisonnières? Crois-tu que des naturels puissent faire le poids face à des Aes Sedai? Galina s'est laissée surprendre. C'est la seule explication. Comment ça, une troisième déroute?
Tu ne m'as pas écouté, mère.
Alviarine s'assit sans demander la permission et arrangea paisiblement sa robe.
Kovarla pense qu'elles auraient pu résister au naturel. Selon moi, elle en est beaucoup moins sûre qu'elle le paraît, mais passons. En revanche, avec les hommes, c'était une autre affaire. Des centaines d'hommes en veste noire, tous capables de canaliser. Elle est certaine de son témoignage, et les autres le corroborent, selon ses dires. Des armes vivantes, ces hommes. Rien que d'en parler, elle a failli s'oublier sous elle.
Elaïda en resta stupéfiée. Des centaines?
Impossible. Il ne peut pas y en avoir plus de...
Approchant d'un guéridon en ivoire surchargé de dorures, la chair d'Amerline se servit une coupe de ponche. Le bec de la carafe cogna contre le cristal de la coupe, et du ponche coula sur le plateau.
« Si Altor sait voyager, »
dit Alviarine,
« il est logique que ces hommes, au moins certains d'entre eux, en tout cas, en soient aussi capables. Kovarla est sûr qu'ils sont arrivés comme ça. Quant à Altor, je suppose qu'il n'a pas aimé la façon dont on l'a traité. Kovarla elle-même semblait gênée à ce sujet. Et à l'en croire, d'autres sœurs partageaient son sentiment. Ce jeune homme peut vouloir se venger de toi. Il serait très déplaisant que ces types en noir se matérialisent soudain dans la tour, pas vrai?
Elaïda faillit s'étrangler avec son ponche. Galina avait ordre de commencer à mater Altor. S'il venait ici avec des idées de vengeance, et s'il y avait des centaines d'hommes capables de canaliser, voire cent seulement, un sujet à creuser.
« S'il devait attaquer, »
dit Alviarine,
« je suppose que ce serait déjà fait. Pourquoi gâcher l'effet de surprise? Altor lui-même craint peut-être d'affronter la tour blanche tout entière. Ces hommes ont dû rentrer à Kemlin dans leur tour noir. Ce qui veut dire, j'en ai peur, que Tovain va avoir une très désagréable surprise.
« Envoie-lui l'ordre de rentrer sur le champ !»
lança Elaïda d'un ton rauque. Le ponche ne l'avait guère aidé à s'éclaircir la voix. Se retournant, elle sursauta en découvrant Alviarine campée juste devant elle. Avec un peu de chance, ces hommes n'étaient peut-être même pas cent. Même pas? Au coucher du soleil, qu'il y en ait 10 aurait paru une folie. Et de toute façon, pas question de prendre le risque.
Un ordre écrit de ta main, Alviarine. Fais-le tout de suite!
Et comment lui ferais-je parvenir cet ordre?
Avec un petit sourire, la gardienne inclina la tête, mimant une innocente curiosité.
Mère, aucune d'entre nous ne maîtrise les portails. Très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, les bateaux déposeront Tovain et sa suite en Andorre. Tu lui as dit de former des petits groupes et d'éviter les villages, afin de ne pas se faire repérer. Désolée, Elaïda, mais je crains que Tovain regroupe ses forces près de Kemlin, puis attaque la tour noire avant d'avoir reçu notre message.
Elaïda s'étrangla de nouveau. Alviarine venait de l'appeler par son prénom. Avant qu'elle puisse exprimer son courroux, la gardienne enfonça le clou.
Je crois que tu es dans les ennuis jusqu'au cou, Elaïda.
Toujours le même sourire, et au-dessus, un regard d'acier.
Tôt ou tard, le Hall apprendra ce fiasco avec Altor. Comme victime sacrificielle, Galina aurait pu suffire aux représentantes, mais pas Kovarla. Elles voudront châtier quelqu'un de plus haut placé. Et tôt ou tard, le fiasco annoncé de Tovain sera connu de toutes les sœurs. À ce moment-là, tu auras du mal à garder ceci sur tes épaules.
Comme si de rien n'était, Alviarine ajusta l'étole de Laïda.
En fait, ce sera impossible si la nouvelle arrive bientôt. Tu seras calmé pour faire un exemple. Ce qu'a été Siouan Sanche en son temps. Mais si tu écoutes ta gardienne, rien n'est perdu. Tu as besoin de bons conseils.
Et Laïda eut l'impression que sa langue restait collée à son palais. La menace n'aurait pas pu être plus claire.
Tout ce que tu as entendu ce soir est scellé à la flamme,
parvint-elle à dire. À peine ces mots sortis de sa gorge, elle sut qu'ils ne serviraient à rien.
« Si tu as l'intention de ne pas écouter mes conseils... »
Alviarine fit mine de se détourner.
« Attends !»
Elaïda ramena très vite vers elle la main qu'elle avait tendue en direction d'Alviarine, privée de l'étole puis calmée. Mais ça ne s'arrêterait pas là, elle le savait.
« Quel... »
Elle dut s'interrompre pour déglutir.
« Quel conseil me donne ma gardienne? Il doit y avoir un moyen d'enrayer cette machine infernale. »
Avec un soupir, Alviarine approcha d'Elaïda, bien plus près qu'il était convenable face à la chair d'Amerline, puisque les ourlets de leurs robes se touchaient presque.
« Primo, je crains qu'il faille abandonner Tovain à son destin, en tout cas pour le moment. La même chose pour Galina et les autres prisonnières.
qu'elles soient détenues par les Aiel ou par les Achaman. Toute tentative de les sauver te trahirait. »
Elaïda acquiesça pensivement.
« Oui, je vois ce que tu veux dire. »
Impossible de détourner ses yeux, maintenant terrifiés, du regard dominateur de l'autre femme. Cette catastrophe devait être évitable. À coup sûr, il y avait une solution.
« Secondo, tu devrais revoir ta décision au sujet des gardes de la tour. Ne crois-tu pas qu'il faudrait en recruter davantage ?»«
Je...
Eh bien, oui, ça s'impose, en effet. »
Par la lumière, ça ne pouvait pas se passer ainsi.
« Parfait, »
fit Alviarine. Elaïda s'empourpra de colère.
« Demain, tu superviseras en personne la fouille de deux chambres, celle de Josein et d'Adelorna. »«
Au nom de la lumière ! Pourquoi est-ce que je... »
Alviarine tira de nouveau sur l'étole d'Elaïda, mais plus fort, comme si elle voulait la lui arracher, ou l'étrangler avec.
« Il paraît que Josein a trouvé un angréal, il y a des années, et qu'elle l'a gardé par-devers elle. Adelorna a fait encore pire, dit-on. Elle a sorti un angréal d'une des remises sans demander l'autorisation. Quand tu auras trouvé les artefacts, tu annonceras aussitôt le châtiment que recevront ces femmes. Fais en sorte qu'il soit sévère. En même temps, tu citeras Doreiz, Kiyoshi et Farelienne comme des modèles à suivre en matière de respect de nos lois. Pour les récompenser, tu leur offriras un présent. Un nouveau cheval fera l'affaire. »
Elaïda eut l'impression que ses yeux allaient lui sortir de la tête.
« Pourquoi ?»
De temps en temps, violant les lois, une sœur conservait un angréal. En général, la punition équivalait à un coup de règle sur les doigts. Toutes les sœurs, un jour ou l'autre, avaient eu cette tentation. Et l'histoire du cadeau ? Les conséquences étaient prévisibles. Toute la tour penserait que Doreiz, Kiyoshi et Farelienne avaient dénoncé les deux autres. Josein et Adelorna appartenaient toutes deux à l'âge avert, les autres étant respectivement membres du marron, du gris et du jaune. Bien entendu, l'âge avert serait furieux. Il y aurait des tentatives de vengeance, et en réponse des...
« Alviarine, pourquoi veux-tu que je fasse ça ?»«
C'est mon conseil, Elaïda, et ça devrait te suffire. Je veux t'entendre dire que tu feras ce que je te... suggère. Sinon, je ne vois pas pourquoi je m'épuiserais à essayer de garder cette étole sur tes épaules. Je t'écoute.
Je... »
Elaïda tenta de détourner le regard. Elle devait réfléchir. Il y avait sans doute un autre moyen de...
« Je ferai ce que tu me dis.
Tu vois, ça n'était pas si difficile. »
fit Alviarine avec un sourire glacial. Elle recula soudain et se fendit d'une révérence minimaliste.
« Avec ta permission, je vais me retirer et te laisser profiter de ce qui reste de la nuit pour te reposer. Demain, levé à l'aube, tu auras des ordres à donner au haut capitaine Shubain, puis des appartements à fouiller. Nous devons aussi décider du meilleur moment pour informer la tour de l'existence des Achaman. »
À son ton, Alviarine entendait bien en décider elle-même.
« Il serait aussi judicieux de préparer notre nouvelle offensive contre Altor. Il est temps que la tour abatte ses cartes et lui brise l'échine, pas vrai ? Réfléchis bien. En attendant, je te souhaite une bonne nuit. »
La gorge nouée et l'estomac révulsé, Elaïda regarda sortir sa gardienne des chroniques. La tour abattre ses cartes ? Ça reviendrait à provoquer les attaques de ses... Achaman. Ce qui lui arrivait était impensable. Un tel outrage la frappant elle. Armant son bras, elle lança sa coupe de vin dans les airs et la regarda exploser contre une tapisserie aux motifs floraux. Puis elle s'empara de la carafe et lui fit suivre le même chemin. La prédiction semblait tellement certaine. Elle allait... Elaïda se calma d'un coup. Regardant les petits éclats de cristal accrochés à la tapisserie, puis les plus gros qui gisaient sur le sol, elle réfléchit enfin. La prédiction parlait de son triomphe. Le sien. Alviarine avait certes remporté une bataille, mais l'avenir lui appartenait, et pas à cette traîtresse. Il convenait donc de l'éliminer. Mais il fallait le faire discrètement, afin que le hall ne sourcille pas. L'essentiel était de trouver une façon de procéder qui ne désigne pas trop tôt la chair d'Amerline. Bien sûr, c'était évident. Alviarine n'en aurait pas cru ses oreilles, et personne d'autre non plus. Si elle avait vu le sourire d'Elaïda, la gardienne en aurait eu les jambes tremblantes. Avant de mourir, Alviarine envierait le sort de Galina, qu'elle soit encore de ce monde ou non. Alviarine s'arrêta au milieu du couloir et baissa les yeux sur ses mains, étonnée qu'elle ne tremble pas. Elle s'attendait à une plus âpre résistance, mais c'était commencé, et elle n'avait rien à craindre. Sauf si Elaïda apprenait que 5 Aja sur les 6, ces derniers jours, avaient informé la gardienne des derniers agissements d'Altor. La chute de Kola Vere avait incité tous les agents du Kairien à prendre la plume. Non, même si Elaïda savait, Alviarine n'aurait rien à redouter. Son emprise sur la dirigeante était trop forte pour ça. Surtout en ayant Messahana comme protectrice. Qu'elle en ait conscience ou non, Elaïda était fichue. Même si les Achamans ne criaient pas sur tous les toits qu'ils avaient écrasé Tovain et son expédition, tous les yeux et les oreilles du Kairien se feraient un plaisir de relater l'événement. Avec ce que Messahana lui avait dit de la bataille des puits de Dumaï, l'issue de l'affrontement ne faisait pas de doute aux yeux d'Alviarine. Sauf miracle, pour Elaïda, par exemple les renégats apparaissant aux portes de la ville, la chair d'Amerlin actuelle connaîtrait le même sort que Siwan Sanche. Une question de semaine. Oui, ça avait commencé. Réduite à obéir sans savoir pourquoi, Alviarine aurait donné cher pour savoir ce qu'était ce « ça ». Mais elle devait se contenter d'apprendre et d'observer. Quand tout serait fini, l'étole rayée reposerait peut-être sur ses épaules. À la lueur des premiers rayons du soleil, qui filtrait de ses fenêtres, Céaïne trempa sa plume dans l'encre. Avant qu'elle ait pu écrire un mot, la porte s'ouvrit et la chair d'Amerline entra. S'attendant à n'importe qui sauf à Elaïda, même l'intrusion d'Altor en personne l'aurait moins surprise, Céaïne fronça ses sourcils noirs broussailleux. Elle posa cependant sa plume, se leva et tira sur ses manches qu'elle avait retroussées pour ne pas les tacher. Enfin, elle fit la révérence assez peu prononcée qui s'imposait quand une chair d'Amerline déboulait à l'improviste chez une représentante.
« Mère, j'espère que tu n'as trouvé aucune sœur blanche coupable de cacher un angréal chez elle. »
Après tant d'années, Céaïne n'avait jamais réussi à se débarrasser totalement de l'accent de Lougarde. Quant à ce qu'elle espérait, c'était sincère et fervent. La descente d'Elaïda chez les sœurs vertes, quelques heures plus tôt, alors qu'elle dormait pour la plupart, continuait sûrement à provoquer des gémissements et des grincements de dents. De mémoire de sœur, aucune femme n'avait jamais été fouettée pour avoir chipé un angréal. Et voilà que deux Aes Sedai allaient subir ce sort. La chair d'Amerline avait dû être dans un de ses très mauvais jours. Avait dû, car il ne restait pas trace de sa morosité. En robe rouge à rayures, elle regarda un moment Céaïne, puis s'approcha du meuble où étaient exposées des miniatures. Toute la famille de la représentante. Des gens morts depuis très longtemps, mais qu'elle continuait à chérir.
« Tu n'as pas voté pour que je sois nommée chair d'Amerline, »
dit Elaïda en s'emparant du portrait du père de Céaïne. Mais elle le reposa très vite et saisit celui de sa mère. Céaïne faillit froncer de nouveau les sourcils, mais elle avait une règle d'or. Ne jamais être surprise deux fois dans la même journée.
« Mère, je n'ai pas été informée à temps que le hall se réunissait. »«
Oui, oui. »
Abandonnant la miniature, Elaïda vint se camper devant la cheminée. Céaïne, ayant une passion pour les chats, des statuettes de félins couvraient le manteau, certaines dans des positions amusantes. Elaïda observa pensivement cette exposition, puis elle ferma les yeux et secoua la tête.
« Mais tu es restée à la tour, »
dit-elle en se retournant.
« Toutes les représentantes non informées se sont enfuies pour rejoindre les renégates. » À part toi. Pourquoi ? Mère, qu'aurais-je pu faire sinon rester ? La tour doit être unie.
Quelle que soit la chair d'Amerline,
ajouta mentalement Céaïne.
Et qu'est-ce qui ne te plaît pas avec mes chats ?
Une question qu'elle n'aurait pas posée à voix haute, bien entendu. L'année où elle avait reçu son châle, Sérail Bagand avait accédé au poste suprême. Connue jusque-là pour être une maîtresse des novices impitoyables, elle s'était révélée une chair d'Amerline 10 fois plus féroce qu'Elaïda ne le serait jamais, même en ayant très mal aux dents. Conditionnée pour respecter les convenances, Céaïne n'était pas du genre à se laisser influencer par des considérations de personne. Et même quand elle n'avait aucune sympathie pour la porteuse de l'étole, ça ne changeait rien à sa position. Personne n'était obligé d'aimer la chair d'Amerline.
« Oui, la tour doit être unie. »
approuva Elaïda en se tordant les mains.
« Elle doit l'être. »
Pourquoi se sentait-elle si nerveuse ? À son répertoire, elle avait une bonne centaine d'humeurs différentes, mais la nervosité n'en faisait pas partie.
« Ce que je vais te dire, Céaïne, est scellé à la flamme. »
Elaïda eut un rictus et haussa les épaules, faisant tressauter son étole.
« Si je pouvais renforcer ce secret, je le ferais. Mère, je garderai tes paroles dans mon cœur. Je voudrais, non, j'ordonne, que tu te lances dans une enquête. Et tu devras effectivement tout garder dans ton cœur. La moindre fuite peut signifier la mort et le désastre pour la tour. »
« La mort et le désastre pour la tour ?»«
Dans mon cœur. »
répéta Céaïne.
Mère, veux-tu t'asseoir ?
Dans ses appartements, elle avait le privilège de proposer.
Désires-tu une infusion à la menthe ou du punch aux prunes ?
Déclinant l'offre d'un geste, Elaïda s'installa dans le fauteuil le plus confortable, un modèle sculpté par le père de Céaïne pour célébrer son accession au titre d'Aes Sedai. Depuis, les coussins avaient été remplacés plusieurs fois. Assise le dos bien droit, Elaïda aurait tout aussi bien pu être sur un trône. Comportement plutôt vexant, elle n'autorisa pas Céaïne à prendre un siège.
Depuis que ma devancière et sa gardienne se sont enfuies, ont pu s'enfuir grâce à des complicités. J'ai beaucoup réfléchi à la trahison. C'est un cas typique, et seules des sœurs peuvent en être coupables.
C'est effectivement probable, mère.
Et Laïda parut agacée par cette interruption.
C'est Ayn. On ne sait jamais vraiment qui porte les ombres de la trahison dans son cœur. Je soupçonne quelqu'un d'avoir réussi à faire annuler un ordre que j'ai donné. Et j'ai des raisons de croire que quelqu'un a communiqué en privé avec Randaltor. Dans quel but, je l'ignore. Mais c'était sûrement afin de nuire à la tour et à ma personne.
Céane attendit la suite, mais la chair d'Amerline se contenta de la regarder, en tirant distraitement sur le devant de sa robe.
« De quelle enquête s'agit-il, mère ?»
Et Laïda se leva.
« Je te charge de remonter la piste puante de la trahison. Et tant pis si elle te conduit dans de très hautes sphères, la gardienne comprise. Quoi que tu découvres, tu ne rendras de compte qu'à moi, Céane. Personne d'autre ne doit savoir. C'est bien compris ?»«
Oui, mère. Je comprends très bien ton ordre. »
Une fois Elaïda partie, Céane songea que c'était tout ce qu'elle saisissait dans cette affaire. S'asseyant dans le fauteuil qu'Elaïda venait de quitter, elle posa le menton sur ses mains croisées, la posture qu'adoptait son père quand il réfléchissait. Après un moment, tout s'imbriqua logiquement. Céane ne se serait pas dressée contre Siwan Sanche. Après tout, n'était-elle pas celle qu'il avait en premier proposée pour le poste? Mais une fois le coup d'État effectué, en respectant en gros les lois, l'aider à s'évader avait bel et bien été une trahison. Idem pour l'annulation d'un ordre de Laïda. Quant à prendre contact avec Altor, eh bien, ça dépendait de l'intention qu'on avait. Sans savoir de quel ordre il s'agissait, trouver qui avait annulé une consigne de Laïda n'allait pas être facile. Et si longtemps après, découvrir qui avait aidé Siwan Sanche serait aussi ardu qu'identifier la personne ayant écrit à Altor. Tant de pigeons voyageurs entraient et sortaient chaque jour des pigeonniers de la tour. Si Elaïda en savait plus long que ce qu'elle disait, toute son approche ne tenait plus guère debout. Pourquoi tourner ainsi autour du pot? De plus, confrontée à une trahison, Elaïda aurait dû être furieuse. Mais elle s'était montrée nerveuse, rien de plus, et pressée de partir. Comme si elle ne voulait pas être tentée de révéler tout ce qu'elle savait ou soupçonnait. Presque comme si elle avait peur. Quelle trahison aurait pu énerver Elaïda ou lui faire peur? La mort et le désastre pour la tour. Comme dans un puzzle, quand toutes les pièces se mirent en place, Céane fronça plus que jamais les sourcils. C'était cohérent, et ça lui glaçait les sangs. Scellée à la flamme. Elle avait juré de garder tout ça dans son cœur, mais depuis qu'elle avait prononcé cette phrase, plus rien n'était comme avant. Quand c'était justifié, Céane ne s'interdisait pas d'avoir peur, et là, elle était terrifiée. Toute seule, elle ne pourrait pas faire face. Mais à qui se confier? En de telles circonstances, qui était digne de confiance? La réponse s'imposa très vite. Dès qu'elle se fut un peu ressaisie, Céane sortit de chez elle et quitta le quartier de l'Aja Blanc pratiquement au pas de course. Comme d'habitude, des domestiques allaient et venaient dans les couloirs. Mais ils n'eurent pas le temps de saluer Céane, tant elle avançait vite. Pour cette heure matinale, il y avait relativement peu de sœurs. Mais si la plupart restaient près de leur quartier, pour une raison inconnue, celles qui en sortaient valaient la peine d'être observées. Remontant ou descendant les couloirs ornés de tapisseries, elles affichaient leur sérénité, une attitude paradoxale, non? Mais quelque chose dans leurs yeux criait que c'était de l'esbrouffe. De ci, de là, deux ou trois tenaient des messes basses en regardant autour d'elles pour s'assurer qu'on ne les espionnait pas. Deux ou trois membres du même aja, systématiquement. La veille encore, Céane avait vu des sœurs d'obédience différentes bavarder en toute amitié. Les membres de l'Aja Blanc étaient censés se détacher totalement des émotions. Céane n'avait jamais cru bon de s'aveugler, contrairement à certaines de ses collègues. Et ce matin, la suspicion empoisonnait l'atmosphère de la tour. Hélas, ce n'était pas nouveau. Avec ses punitions démesurées, la chair d'Amerline avait commencé à semer le trouble, et les rumeurs au sujet de Loghain n'étaient pas faites pour arranger les choses. Mais aujourd'hui, c'était pire que jamais. Talen Minli déboula d'un couloir latéral, juste devant Céane. Bizarrement, elle avait disposé son châle sur ses bras, comme pour bien mettre en valeur les franges vertes. Soudain, Céane s'avisa que toutes les sœurs vertes qu'elle avait croisées portaient leur châle. Blonde, grande et jolie, Talen avait voté pour la destitution de Siwan. Mais elle était arrivée à la tour, alors que Céane était encore inacceptée, et cette affaire n'avait pas affecté leur amitié de longue date. Talen avait eu des raisons qui pouvaient se comprendre, même si on ne les partageait pas. Elle s'arrêta, observant avec méfiance Céane. Tant de sœurs se regardaient en chien de faïence ces derniers temps. Dans d'autres circonstances, Céane aurait marqué une pause, mais pas alors que sa tête menaçait d'exploser comme un melon, à cause de ce qu'elle venait de vivre et d'apprendre. Talen était son amie, et elle la croyait fiable, mais croire ne suffisait pas, avec de tels enjeux. Plus tard, si possible, elle tenterait de la mettre au courant. Pour l'heure, elle accéléra le pas, après avoir salué son amie de la tête. Dans le quartier des Sœurs Rouges, la tension était encore plus palpable. Comme pour les autres Ajah, il y avait bien plus de chambres que de sœurs, et c'était déjà ainsi avant la fuite des renégates. Mais le rouge comptait le plus de membres, et les sœurs utilisaient à plein les niveaux encore ouverts. Même quand ça ne s'imposait pas, les sœurs rouges avaient tendance à porter leur châle. Là, elles l'arboraient comme un étendard. Toutes les conversations se turent dès qu'on aperçut Céane, et des yeux glaciaux suivirent sa progression jusqu'à ce qu'elle ait disparu ou soit hors de portée d'oreille. Alors qu'elle foulait les dalles blanches ornées d'une flamme de Tarvalon rouge, Céane se sentit en territoire ennemi. Mais n'importe quelle zone de la tour pouvait être hostile, selon les jours et les tendances. Selon la façon dont on les regardait, ces flammes rouges pouvaient évoquer des crocs du dragon. Même si elle n'avait jamais cru aux histoires sur les sœurs rouges et les faux dragons, Céane ne put s'empêcher de frissonner. Si tout était faux, pourquoi aucune sœur rouge ne prenait-elle la peine de le dire? À un moment, Céane dut demander son chemin.
« Si elle est très prise, »
dit-elle,
« je ne la dérangerai pas. Nous étions très proches, il fut un temps, et je voudrais renouer notre amitié. Aujourd'hui, plus que jamais, les Ajah ne peuvent se permettre la désunion. »
La stricte vérité, même si les Ajah semblaient au bord de la scission plus que de la désunion. La sœur d'Omani à qui Céane s'était adressée la regarda froidement. Parmi les sœurs rouges, les d'Omani étaient plutôt rares. Elles se révélaient plus dangereuses qu'un serpent coincé dans une palissade.
« Je vais te montrer, représentante, »
dit enfin la sœur, sans trop forcer sur le respect. Elle guida Céane, puis la regarda frapper à la porte, comme si elle redoutait de la laisser seule dans son fief. Les battants étaient eux aussi ornés d'une flamme couleur sang.
« Entrez !»
lança une voix dure à l'intérieur. Céane ouvrit la porte en espérant avoir fait le bon choix.
« Céane !»
s'exclama Pevara, ravie.
« Quel bon vent t'amène ! Entre et ferme la porte !» « Après, assieds-toi !»
En un clin d'œil, toutes les années écoulées depuis que les deux femmes avaient été novices puis acceptées ensemble semblèrent se volatiliser. Plutôt rondelette et assez petite, courte sur pattes même pour une candorienne, Pevara était très jolie, avec une lueur malicieuse dans ses yeux noirs et un sourire avenant. Quelles que soient ses motivations, on pouvait regretter qu'elle ait choisi l'Ajah rouge, parce qu'elle aimait toujours les hommes. Cet Ajah attirait majoritairement les femmes qui se méfiaient des mâles, mais certaines s'y engageaient simplement parce que découvrir les hommes capables de canaliser leur semblait une mission importante. Cela dit, qu'elles apprécient les hommes ou qu'elles les honnissent, voire qu'elles n'aient aucune opinion arrêtée à leur sujet, très peu de femmes pouvaient appartenir longtemps à l'Ajah rouge sans finir par les vouer aux gémonies. Sans en avoir la certitude, Céane pensait que Pevara, peu après avoir reçu son châle, avait écopé d'une sévère punition pour avoir déclaré qu'elle aurait bien voulu d'un champion. Depuis qu'elle était membre du Hall, donc au sommet de la hiérarchie, elle n'hésitait plus à dire ouvertement que des champions faciliteraient le travail des sœurs rouges.
« Tu n'imagines pas à quel point je suis contente de te voir !»
dit Pevara, quand les deux amis furent installés dans des fauteuils décorés de spirales sculptées. Le style en vigueur au camp d'or un siècle plus tôt, en parfaite harmonie avec les tasses à infusion ornées de papillons peints à la main.
« J'ai souvent pensé à aller te voir !»
continua Pevara.
« Mais j'avais peur de ta réaction, après que je t'avais laissé tomber d'un coup, il y a des années. Céane, je le jure sur la lame, je n'aurais pas fait ça !» si Tézienne Jor'ald ne m'y avait pas forcé. Hélas, j'avais reçu mon châle trop récemment pour être capable de me défendre. Tu penses pouvoir me pardonner?
Bien sûr. Même à l'époque, j'ai compris.
Les sœurs rouges étaient opposées aux amitiés hors Ajah, et elles savaient les décourager avec une grande efficacité.
Jeune, nous sommes incapables d'aller contre nos Ajah. Ensuite, il est très difficile de revenir en arrière. Mais je me souviens encore de nos conversations après le couvre-feu, et de nos farces. Comme la fois où nous avons versé du poil à gratter dans le lit de Serancha. Malgré tout ça, j'ai honte d'avouer qu'il m'a fallu être terrifié pour venir te voir. Je voudrais reprendre notre amitié où nous l'avons laissée, mais j'ai également besoin d'aide. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Serancha est école et montée, et elle est restée. L'Ajah gris est parfait pour elle. Mais toi, terrifié? Céane, il avait peur de rien. Enfin, tu attendais pour ça que nous soyons de retour dans nos lits. À part promettre de te défendre devant le hall, sans savoir de quoi tu es accusé, je suis prêt à tout pour t'aider. Quel est ton problème ?
Au moment de faire le grand saut, Céane hésita, sirotant son infusion. Non qu'elle eût des doutes sur son ami, mais certains mots, était très difficile à prononcer.
« Ce matin, »
dit-elle enfin,
« la chère d'Amirline est venue me voir. Sous le sceau de la flamme, elle m'a chargé d'une enquête. »
Pevara fronça les sourcils, mais elle ne fit pas remarquer que Céhain, dans ces circonstances, n'aurait pas dû lui parler de cette affaire. Lorsqu'elles étaient jeunes, c'était Céhain qui assurait la réalisation pratique de leurs blagues douteuses. Mais les idées venaient presque toujours de Pevara. Et c'était elle, en général, qui avait le cran de les développer et de les peaufiner.
Elaïda s'est montrée très prudente. Mais en réfléchissant après son départ, j'ai compris ce qu'elle attend de moi. Je dois traquer les suppôts de ténèbres qui se sont infiltrés dans la tour.
Les yeux noirs de Pevara, soudain durs comme de la pierre, se tournèrent vers le manteau de la cheminée, où étaient alignés les portraits de sa famille. Tous ces gens étaient morts pendant son noviciat. Ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et ses tantes. Tous tués par des suppôts en révolte ouverte, parce qu'ils croyaient que le ténébreux sortirait bientôt de sa prison. Si Céhain avait une confiance aveugle en Pevara, c'était à cause de ça. Et bien entendu, si son ami avait choisi la jarre rouge, ça avait un rapport direct avec ce drame. En traquant des hommes capables de canaliser, Pevara estimait avoir plus d'occasions de tomber sur des suppôts. Même si Céhain pensait que sa vieille compagne de jeunesse aurait fait une excellente sœur verte, un choix qui l'aurait sans doute rendue plus heureuse, il fallait bien reconnaître que sa carrière dans la jarre rouge était une réussite. Sous ses apparences aimables et rondelettes, Pevara avait un cœur de fer. Et elle possédait le courage qui manquait à Céhain quand il s'agissait d'appeler un chat un chat.
La jarre noire, c'est ça? Pas étonnant qu'Elaïda ait été prudente. Mon ami, je sais qu'elle a toujours farouchement nié l'existence des sœurs noires, mais je suis certaine qu'elle avait très exactement ça dans la tête. Et si elle a changé d'avis, inutile de t'efforcer de me convaincre. Je suis persuadé de l'existence de la jarre noire depuis...
Pevara hésita soudain, scrutant son infusion comme si elle avait pu y lire l'avenir.
Que sais-tu des événements qui ont suivi la guerre des Aiels? Deux chères d'Amirline sont mortes subitement en l'espace de 5 ans.
En principe, Pevara devait parler des événements s'étant produits à la tour. Pour être honnête, avant d'être nommée représentante 15 ans plus tôt, soit 1 an après Pevara, Céhain n'avait jamais accordé beaucoup d'attention à ce qui se passait hors de la tour. Et pas beaucoup plus à ce qui arrivait à l'intérieur, pour tout dire.
Beaucoup de sœurs sont mortes en ce temps-là. Tu penses que la jarre noire est liée à ces tragédies?
Voilà. Céhain avait prononcé ce nom, et sa langue n'était pas tombée en cendres.
Je n'en sais rien. Tu as bien fait de t'immerger dans la philosophie, mon ami. Des choses ont été faites à cette époque, puis scellées à la flamme.
Céhain respecta le silence pensif de son ami. En lui parlant de sa mission, n'avait-elle pas commis une sorte de trahison? Pevara allait devoir prendre une décision difficile.
Consulter des rapports sera plus facile que de poser des questions sans vraiment savoir à qui on s'adresse,
résuma Céhain.
Logiquement, une sœur noire devrait être capable de mentir, malgré les 3 serments.
Dans le cas contraire, la jarre noire aurait été démasquée depuis longtemps. Décidément, Céhain s'était vite habitué à prononcer ces 2 mots.
Si une sœur prétend avoir fait une chose, chaque fois que nous découvrirons que c'est faux, nous aurons débusqué un suppôt de ténèbres.
Certes,
admit Pevara.
Mais nous ne pouvons pas nous limiter à ça. La jarre noire n'a peut-être rien à voir avec les renégates. Mais je doute que ses membres aient laissé passer cette tempête sans tenter d'en tirer avantage. Nous devons enquêter sur toute l'année qui vient de s'écouler.
Céhain acquiesça à contre-cœur. Pour ça, il faudrait lire moins de rapports et interroger plus de sœurs. Et qui d'autre impliqué dans cette enquête? Vu les risques, c'était plus que délicat. Surtout quand Pevara ajouta
« Céhain, tu as été très courageuse de venir me voir. J'ai connu des suppôts capables de tuer leurs parents, leurs frères et leurs sœurs pour dissimuler leur véritable nature et les horreurs qu'ils avaient commises. Ta bravoure m'incite à t'aimer plus fort encore. »
Céhain frissonna, comme si quelqu'un était en train de marcher sur sa tombe. Si elle avait eu des ambitions héroïques, elle aurait choisi la Javert. Pourquoi Elaïda ne s'était-elle pas adressée à quelqu'un d'autre? Mais les dés étaient jetés, et il allait falloir faire avec.